Les étrangers avec des pieds sont les bienvenus. Les étrangers sans pieds ou avec des faux pieds seront raccompagnés chez eux.
Voilà, ce soir, on reçoit le Gisti en la personne de Marie Duflo. On est très content de vous recevoir ce soir, puisque le Gisti, c'est un peu eux qui comprennent pour nous pour l'ensemble des militants de gauche les méandres des lois qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers en France. C'est vous qui nous expliquez ce qu'on ne comprend pas dans ces textes. Et puis, par ailleurs, c'est le Gisti, surtout, qui va former les militants et militantes qui défendent la cause des sans-papiers. Alors peut-être, Marie Duflo, nous présenter un peu plus le Gisti, d'où vous venez, sur quels sont vos domaines d'intervention, un petit peu essayer de présenter de manière synthétique quels sont...
Oui, bon, le Gisti a une trentaine d'années. Il s'est beaucoup battu depuis 30 ans sur le droit des étrangers. On ne peut pas dire qu'il n'y ait que des victoires depuis 30 ans, mais bon, c'est son objet, c'est le droit des étrangers. La connaissance du droit des étrangers, bien entendu, mais aussi beaucoup l'idée de diffuser au maximum le droit des étrangers, parce qu'on aimerait que tout le monde ait des réflexes de droit des étrangers pour essayer de défendre les gens qui les entourent. Et puis aussi, se battre pour les droits des étrangers, se battre contre l'évolution des droits en France, en Europe, se battre par des outils juridiques et évidemment par des outils militants, avec tous les autres militants qui s'occupent du même sujet. Donc c'est le droit des étrangers sous toutes ses faces, avec toujours par derrière un aspect militant.
Alors, peut-être une des particularités du Gisti, c'est que c'est pas il n'y a pas beaucoup de militants au Gisti, mais la plupart sont des juristes et font peut-être pour les autres ce travail de décryptage, de compréhension du cadre juridique et de ses évolutions.
Tout à fait. Mais le Gisti, c'est 180 membres. Effectivement, dans les manifs, ça ne fait pas le poids. Donc, c'est 180 membres qui ont choisi d'être des gens qui bossent beaucoup autour du droit, donc qui ont choisi cette spécificité tout en s'associant avec plein d'autres pour des actions. Effectivement, c'est un suivi des lois et c'est notre spécificité. Donc, vous voulez qu'on parle un peu de l'histoire?
Peut-être juste pour dire, vous publiez, moi là j'ai une édition de 2005, alors le guide de l'entrée du séjour des étrangers en France, c'est aussi le petit bréviaire de comment défendre les sans-papiers et les étrangers aujourd'hui. Alors, à la vitesse où vont les choses, celui-là vaut bientôt plus rien.
Tout à fait, il est déjà presque épuisé. Il est clair que la réédition qui va se faire à l'automne risque d'être très remaniée, malheureusement.
Parce que tout à l'heure, je regardais avant de venir, j'en ai chez moi, j'avais l'exemplaire de 99 et 2000, je les ai jetés. Parce que je me suis dit que le droit avait tellement évolué qu'on ne pouvait plus rien en faire.
Historiquement, c'est intéressant quand même de suivre la dégringolade. C'est quand même, depuis 74, une dégringolade continue. Et il est quand même intéressant de suivre ce qui s'est passé, parce qu'on a souvent la mémoire courte.
Justement, à ce propos, on recevait le chercheur Alexis Pire dans cette émission il y a quelque temps, qui nous disait que, grosso modo, depuis les années 70, le droit des étrangers n'était qu'une succession de reculs, et que, quels que soient les gouvernements qui se succèdent, en fait, au final, on ne fait que reculer sur la question du droit des étrangers. Comment vous voyez cette évolution depuis 30 à 40 ans du droit des étrangers en France?
Oui, la grande secousse, ça a été 1974, l'interdiction, l'arrêt officiel de l'entrée des travailleurs. À partir de là, ça a été effectivement des lois qui, au début, discutaient de la manière d'obtenir des cartes de 10 ans, ce qui semble maintenant vraiment un luxe. Puis petit à petit, ça a descendu, effectivement, toujours par des à-coups, mais toujours en pente descendante. À chaque arrivée d'un gouvernement de gauche, il y a eu des petites remontées qui, sur la fin du gouvernement de gauche, sont redescendues. Et finalement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est une pente avec des légères ondulations, mais qui est vraiment descendante, et actuellement sur une pente très forte descendante.
Il y a quelque temps, le débat se portait sur l'Europe, l'Union européenne. Comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce qu'on constate aussi cette dégringolade depuis les années 70?
Tout à fait, et surtout depuis les années 90. Dans les années 70, disons pendant tout un temps, les choses étaient assez anarchiques. Il y avait des pays plus ou moins libéraux. La Grande-Bretagne a été un peu plus libérale sur ce plan que la France. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'une politique commune d'immigration et d'asile se crée en Europe, elle se crée par le bas. C'est-à-dire qu'on fait des directives, elle se négocie d'un gouvernement à l'autre au niveau le plus bas qui existe dans la communauté européenne. Et puis la communauté européenne se crée aussi autour de l'idée de choses horribles du genre de la maîtrise des flux migratoires, donc des barrières policières qu'il faut faire tout autour de l'Europe pour empêcher même de voir ces étrangers qu'on ne voudrait pas voir. Et c'est complètement européen. Les idées qui sont dans la loi en cours d'évolution en France sont des idées qui circulent partout au niveau de la communauté européenne. C'est pas une invention géniale française.
Oui, mais justement, pour revenir un peu sur cet aspect un peu européen, est-ce qu'on connaît les gens qui rédigent ces lois, qui proposent ce type de loi? Quelles sont leurs formations? Est-ce qu'ils ont une réflexion générale sur la société? Est-ce qu'il y a des think tanks, des groupes de recherche qui, depuis 30 ans, apportent une réflexion des textes juridiques au gouvernement ou au ministre pour faire évoluer la législation? Est-ce qu'il y a une... Comment ça... D'où ça vient, en fait, au-delà de la pression politique qu'il peut y avoir, hein, est-ce qu'il y a derrière ça aussi une réflexion juridique?
Il y a des commissions à Bruxelles qui élaborent des directives, qui élaborent des textes. Après, ça passe à la moulinette de toutes les discussions des gouvernements européens et ces textes, dans leur première version, parfois sont acceptables. Et puis, petit à petit, dans la moulinette qui rabote tout, ça n'est plus. Donc, je pense que c'est beaucoup plus la politique que les juristes, quand même, qui élaborent ces textes. C'est dommage pour nous, mais c'est beaucoup plus la politique et les pressions économiques et peut-être la peur de l'Europe, parce que l'Europe n'est plus le centre du monde. C'est une réaction de défense par rapport à... Il faut bien trouver un coupable. Alors, on trouve un coupable, c'est l'étranger, pourquoi pas, hein.
Avant de parler du cadre de la loi française, peut-être qu'on peut dire deux mots sur cet espace européen qui n'est pas à l'échelle de l'espace de l'Union européenne, qui est l'espace Schengen. Peut-être nous expliquer ce qu'est l'espace Schengen et qu'est-ce qu'il a de contraignant aujourd'hui au-dessus de l'état de la loi française, quoi.
Non, je crois qu'il faut parler de l'Union européenne, parce que les acquis de Schengen, comme on dit, relèvent maintenant de l'Union européenne en général, plus la Suisse, plus la Norvège, plus l'Islande. Donc c'est quand même plutôt maintenant à cette échelle qu'il faut réfléchir. Disons, évidemment, quand ça s'est créé, on s'est dit c'est fantastique, c'est la libre circulation. Ça fait partie de l'idée de l'Union européenne. C'est une des super belles choses, au sein d'une Union européenne assez large, libre circulation. Si ce n'est que c'est libre circulation pour les citoyens européens et pas pour les autres, et que ça s'est au fur et à mesure assorti, effectivement, dès que l'espace Schengen s'est créé, ça s'est assorti du fait que c'est fantastique. Nous, maintenant, on peut voyager d'un pays à l'autre sans visa. Mais ça veut dire que, du coup, il fallait se barricader pour que des gens qui viennent d'ailleurs aient plus de difficultés à rentrer dans cet enclos. Donc c'est effectivement ça s'est lié. En même temps que la libre circulation se développe au sein de l'Union européenne, se sont développés des systèmes de visa de plus en plus difficiles, des systèmes de barrières policières de plus en plus difficiles, des systèmes de filtrage en amont avant d'entrer en Europe de plus en plus compliqués, au départ des pistes d'aéroport, à l'arrivée sur les passerelles, de partout. Hein. Et puis ce qu'on voit actuellement, avec les événements que vous avez vus, Ceuta et Melilla, par exemple, des gens qui prennent tant de risques pour parcourir l'Afrique et arrivent ensuite devant des barrières où ils se font tuer à Ceuta et Melilla. Donc c'est tout un système de filtrage avant même qu'on parle de droit au séjour dans les pays européens qui font qu'énormément d'étrangers n'arrivent pas à venir. Ou si jamais ils arrivent à venir, ils arrivent en ayant couru tant de risques et en s'étant tellement endettés qu'il n'est plus question même qu'ils envisagent de repartir.
Oui, parce que ces lois, finalement, ce qu'elles encouragent, c'est l'immigration irrégulière. Et ce qu'on a pu constater, c'est notamment aux portes de l'Europe, au Maroc.
Tout à fait, bien sûr. Puisque c'est devenu presque impossible d'arriver légalement en France, c'est devenu presque impossible d'avoir un visa. C'est devenu, ça devient de plus en plus difficile d'avoir une carte de séjour, même si on est entré. C'est une accentuation qui a duré depuis 30 ans et qui s'accentue. Donc effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens arrivent, ils sont en France, ils sont sans papier, tout le monde le sait. Et l'économie en profite, bien évidemment. C'est un système qui a sa cohérence. Ce sont des travailleurs malléables, utilisables, jetables facilement. Et tout le monde sait que ce système fabrique des travailleurs facilement exploitables.
Il y a un chercheur qui parle à ce propos-là. Il dit que la non-régularisation d'un certain nombre de sans-papiers et le recours à leur force de travail, c'est une forme de délocalisation, mais sur place. C'est-à-dire qu'on... C'est Bolkestein avant l'heure, quoi.
Oui, si vous voulez. Disons, c'est toute la logique de ce dont on va parler pendant la demi-heure ou l'heure qui vient, c'est en plein là-dedans. C'est le droit précaire, c'est tout à fait lié à la lutte CNE, CPE, précarisation du travail. Donc le sans-papier, ça fait partie des éléments qui font pression sur le droit du travail vers le bas.
Sans-papier !
Saint-Bernard !
Saint-Bernard !
Sans-papier !
Sans-papier !
Saint-Bernard !
Saint-Bernard !
Voilà, c'était donc Clive Brown et c'était le tube des manifestations de l'été 96, l'été de Saint-Bernard.
Voilà, et on continue en tout cas à discuter avec Marie Duflo du Gisti. On a parlé un petit peu rapidement du contexte depuis les années 70 sur les lois, son extension aussi au niveau européen. On va bien sûr parler de l'avant-projet de loi qui a été présenté par Sarkozy, mais on voulait revenir d'abord sur la loi de novembre 2003. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour qu'on comprenne d'où on part?
D'accord. D'abord, oui, une question qui peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que toutes ces lois qui tombent en cascade à chaque ministre de l'Intérieur qui arrive? En fait, il y a eu une ordonnance faite en 1945 sur l'entrée et le séjour, qui restait tranquille sans bouger jusqu'en 1974. Et après, depuis, il y a eu je ne sais combien de lois qui ont modifié cette ordonnance. Bon. Maintenant, on ne parle plus de l'ordonnance parce que c'est la même chose, ça a été codifié. Maintenant, ça s'appelle le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le CCDA, ça va plus vite, hein, le Code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Donc, mais c'est la même chose, c'est simplement écrit autrement. Donc, chaque loi, c'est une réforme du CCDA. Hein. Il y a eu une réforme du CCDA le 26 novembre 2003. Suivi d'une réforme, c'était une réforme donc de la partie entrée et séjour en novembre et en décembre une réforme de l'asile 2003. Alors quels étaient les grands axes? Les grands axes pour l'entrée et le séjour, c'était surtout la lutte contre les flux migratoires incontrôlables entre guillemets, hein, comme d'habitude. Et c'était donc, je vais peut-être insister sur deux points parce que c'est ça qui s'accentue actuellement. C'était d'une part créer de plus en plus de décisions discrétionnaires. Discrétionnaire, ça veut dire à la tête du client. Hein, ça veut dire que le préfet ou le maire a une influence sur des opinions complètement subjectives. L'un des outils de la subjectivité fantastique, c'est la notion inventée par la loi de 2003 d'intégration républicaine. L'intégration républicaine, il faut bien y penser, parce que c'est quelque chose qui se répand comme une... comme la grippe aviaire, c'est quelque chose qui non seulement signifie qu'on demande aux gens de connaître le français, suffisamment de français, mais aussi qu'ils connaissent et respectent les valeurs de la République française, le respect des principes de la République française évalués par le maire ou par le préfet. Peut-être que nous sommes tous peu respectueux de ces valeurs de ce point de vue-là. Voilà, donc ça, c'est des éléments donc, qui avaient permis déjà de rendre de plus en plus difficile l'accès à la carte de résident, par exemple, qui avaient déjà compliqué un petit peu tout. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Hein. Maintenant, il faut peut-être passer à la rupture de cette année, si vous le voulez.
Mais déjà, pourquoi Sarkozy, dont on connaît, ou en tout cas, c'est lui qui veut nous montrer ça, son énergie débordante, est-ce que c'est pour confirmer qu'il a beaucoup d'énergie, une énergie à revendre, qu'il refait une deuxième loi pendant cette législature?
Je n'ai pas un grand amour pour Sarkozy, mais je pense qu'il ne faut pas du tout personnaliser sur Sarkozy. Quand Villepin était ministre de l'Intérieur, il a fait un concours pour faire plus d'expulsions encore que Sarkozy. Beaucoup d'idées de cette loi sont des idées qui tiennent à la précarisation du droit du travail. C'est l'ensemble du gouvernement qui est dans cette affaire-là. L'ensemble de ce gouvernement n'arrête pas de légiférer et c'est une maladie de... Bon, alors évidemment, Sarkozy en rajoute sur le ton, mais je pense que s'il se casse la jambe dans la rue, il serait remplacé par un autre qui ferait la même chose, d'autant qu'il s'agit d'idées qui sont des idées européennes, dont on va parler tout de suite, et donc qui sont des idées de la droite, qui sont des idées européennes en même temps. Bon.
Mais quelles sont-elles, alors?
Alors, quelles sont-elles? C'est la première fois, quand même, qu'on ose, même si on le pensait, qu'on ose dire que l'immigration des familles est une immigration subie. C'est quand même la première fois jusqu'à présent. Dans un monde bien pensant, on n'osait pas dire des choses comme ça. Donc on a créé cette immigration subie qu'il faut les restreindre au maximum. Pour la restreindre, il faut dire que c'est tous des tricheurs. Ça a déjà commencé en 2003 et ça s'accentue en 2006 énormément. Pour dire que les gens... On ne peut quand même pas dire nier la Convention des droits de l'enfant, la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Donc il faut trouver autre chose, dire que c'est tous des menteurs, tous des tricheurs. Cette immigration subit des tricheurs, il faut l'arrêter. Et puis, l'immigration de travail arrêtée en 1974, ça ne marche plus tout à fait assez. Même, bon, d'accord, les sans-papiers, c'est très utile, on va continuer. Mais il faut aussi une immigration de travail utile, de travailleurs utiles. Et le travailleur utile, eh bien, c'est le travailleur qu'on va pouvoir jeter quand on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que les patrons voudraient faire venir des travailleurs utiles. On pourra détailler comment. Hein, mais faire venir des travailleurs utiles, ça veut dire soit très très bon, soit génial, soit la chasse des têtes, soit jetable dès qu'on n'en a plus besoin. Voilà, donc c'est ces deux volets. Hein. On ose dire immigration subie pour tout ce qui est immigration liée aux droits de l'homme, disons. Et on ose dire on fait venir des travailleurs, mais à condition de les jeter très vite. Et ça, ce n'est pas inventé par Sarkozy ni par le gouvernement français actuel. Ça a été relancé au plan européen par un truc qui s'appelait le livre vert de l'immigration économique, qui a été lancé en janvier dernier, qui était soi-disant une consultation ouverte à tout le monde, mais évidemment, qui n'était pas destinée à être écoutée, sur l'immigration économique utile et les manières de faire venir des gens jetables.
D'accord, ça c'est une harmonisation européenne de ce point de vue-là. C'est quelque chose que vous constatez, les autres pays qui se rapprochent aussi des lois qu'on connaît donc en France, celles qui vont être votées.
Tout à fait, oui. C'est à peu près, disons, pendant tout un temps, il y avait un peu... Il y a aussi, dans la chasse de tête, bien sûr, il y a une compétition entre les familles, hein, entre les pays. Mais, ou même dans la chasse aux travailleurs utiles, il y a une compétition entre les pays. Mais actuellement, de toute façon, l'idée de cette reprise d'une immigration économique filtrée et jetable, elle est tout à fait générale au niveau européen.
Oui, parce qu'on avait entendu parler il y a quelque temps d'un contrat de travail proposé en Allemagne pour en particulier qui visait des informaticiens qui espéraient, donc les gens venaient dans légalement, mais alors des trucs très très contraignants pour un maximum de 3 ans avec tout un tas de contraintes sur dans le cadre de leur séjour, et ça avait été un échec. C'est une politique qui n'a pas marché, puisque les quotas qu'ils avaient mis en place pour accueillir ces gens-là n'ont pas été remplis du tout, quoi, et loin de là, tellement ils avaient mis de contraintes.
Oui, tout à fait. Ben, ce genre de choses se sont passées dans tous les pays. En France aussi, il y avait des quotas, mais pas tout à fait des quotas de cette manière. Mais bon, effectivement, chacun a eu sa manière. Chacun, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ont fait des quotas. Ici, on a fait à la fois des manières de faire des autorisations provisoires de séjour, les travailleurs saisonniers. On a aussi des manières de faire venir des gens de manière précaire depuis longtemps. Mais ils ont essayé de réguler de manière un peu homogène cette affaire-là. Ça, c'est plus récent, c'est surtout de cette année.
Alors, venons peut-être à ce qu'il y a dans les tuyaux. Le projet de loi a été... présenté.
Maintenant, il est présenté. On le connaît en gros depuis 2 mois, c'est par des fuites successives.
Mais et vous avez maintenant, poussé un grand cri.
On a poussé des grands cris. Pas tout seul, heureusement, très nombreux. Ça, on parlera des très nombreuses personnes qui poussent des grands cris. Mais voilà, donc on peut en parler sur les deux volets, hein, si vous voulez, puisqu'on a parlé là tout de suite du travail. Hein. En fait, l'immigration des travailleurs, donc, elle était presque interdite, hein, jusqu'à présent. L'immigration, la carte de séjour pour travailleurs, c'était absolument dérisoire par rapport à l'ensemble des cartes de séjour qui étaient attribuées. C'était 6 000 personnes à peu près par an. C'est absolument rien, quoi, sur 120 000 par an, que première carte de séjour. C'était sur critères, disons qu'on pourrait dire de préférence nationale. C'est ce qu'on appelle plus élégamment d'opposabilité de la situation de l'emploi. Mais ça veut dire qu'on ne peut actuellement donner une carte de séjour de salarié à quelqu'un qu'en passant par un crible de vérification qu'il n'y a pas un Français qui pourrait prendre le boulot. Ça ne marche absolument pas, puisque c'est personne qui arrive à avoir cette carte. Donc, il existe des tas de pratiques pour faire venir des travailleurs précaires. Ce que contient la loi, c'est plusieurs choses. D'une part, décider d'une autre carte de salarié qui correspond un peu à votre informaticien, qui correspondrait dans certains secteurs déterminé par un arrêt, on ne sait pas avec quelle fréquence. Hein, il y a encore des flous, il n'y a aucun décret d'application. Mais qui serait déterminé par un arrêt qui déterminerait des zones géographiques qui ont besoin de travailleurs et des domaines professionnels où il y a besoin de travailleurs. Pour ces gens-là, une carte de séjour sans préférence nationale, disons, pourra être donnée avec une carte de séjour de 1 an, avec un contrat de travail de 1 an, hein, En principe, renouvelable seulement si, si ça continue à être utile. Hein. Alors évidemment, le problème dans ce cas-là, le problème se rejoint très bien l'histoire du CPE ou CNE. Hein. C'est-à-dire que les patrons actuellement trouvent que le CDD, dans le Code du travail, est beaucoup trop protégé. Hein. Le CDD, on peut pas, même un CDD, on peut pas virer les gens très vite. Or, l'idée, c'est quand même... C'est Villepin qui, en décembre 2004, a parlé d'un CDD séjour. Un CDD... Après les jeunes, ça sera le CDD séjour, CDD des gens qu'on pourrait vider plus vite. Et ça, c'est clair que c'est dans l'esprit de cette affaire-là. Ça serait une carte de séjour qui serait donnée par arrêt, parce qu'on a besoin de développer la Creuse et parce qu'on a besoin d'informaticiens. Mais dès qu'on n'aura plus besoin d'informaticiens ou dès qu'on n'aura plus besoin... Vous vous souvenez, début de 2000, il y a eu la tempête et il y a eu besoin de bûcherons. Ben, on a fait venir des bûcherons polonais et puis on les a virés quand les arbres ont été ramassés. Mais c'est la même idée. Donc cet arrêt pourra dire que pour telle année, on a besoin de bûcherons, d'informaticiens, etc., dans la Creuse ou je ne sais où. Et puis si l'année suivante, ça a changé, eh bien, il n'y a aucune raison que ça dure. Hein. Il y aura aussi une carte de travailleurs temporaires. Carte de travailleur temporaire, alors là, pour des contrats de moins d'un an, et en principe, alors lié à un travail, on ne sait pas encore trop comment ça sera, mais ce serait lié à un travail, ça, il y aurait éventuellement le nom de l'employeur sur le truc. Et en tout cas, sur l'une des moutures provisoires, apparaissait le fait que si le contrat s'arrête, si le patron licencie la personne, la personne perd son emploi et doit revenir au pays, il peut même y avoir une... interdiction de revenir chercher du travail pendant un an. Ce n'est pas une interdiction de territoire français, mais une interdiction de venir chercher du travail en France pendant un an en cas de départ. Donc c'est des précarisations extrêmes. Hein. Bon, et puis entre dans la loi le travailleur saisonnier qui existe déjà. Hein. Mais donc ça, c'est tout cet aspect. Il est clair que la première carte, celle qui existait déjà, elle est encore dans la loi, mais elle continuera à ne pas exister quasiment. Hein. La seconde qui va se développer, donc c'est cette carte liée à un CDD dont on peut craindre que ce soit un truc du genre CNE-CPE, parce que sinon, ça, pour éviter le... Parce que le travail essentiel, c'est le travail jetable. Et puis dans le travail, alors il y a les gadgets aussi, hein, il y a les gadgets, hein, il y a le travail, une carte de séjour, alors compétences et talents. Alors compétences et talents, ben, il y a toujours eu. Hein. Les grands sportifs ou les grands chanteurs de rock ou je ne sais quoi, ils n'ont jamais eu de problème pour avoir une carte de séjour. Donc ça, c'est un gadget pour dire, ben voilà, on veut attirer des gens bien, qui seraient choisis comment ? On ne sait même pas. Il semble qu'il y aurait un jury de grands électeurs qui choisiraient les compétences et talents. Et qui auraient, alors eux, ce serait princier, qui auraient le droit de faire devenir pendant 3 ans... d'avoir tout de suite une carte de 3 ans, de faire venir leur famille, on va en reparler tout à l'heure, immédiatement avec une carte de 3 ans aussi, etc. Enfin bon, ça sera personne ou ça sera les mêmes qui se débrouillaient déjà avant, donc c'est un gadget. Pour les étudiants, dans le même esprit, ben, les très bons étudiants, pourquoi pas, c'est quand même un peu dommage, finalement, on avait toujours l'idée qu'il fallait les renvoyer chez eux pour qu'ils aillent soutenir leur pays, mais après tout, s'ils pouvaient servir à l'économie française, eh ben, on va leur donner une petite chance. Si à la sortie de leurs études, il y a une entreprise française qui en veut, ben voilà, ils pourront. Bon,
Logistique, justement, a fait paraître une analyse sur le CESA dans lequel à propos justement du travail des étrangers, il est indiqué de manière très intéressante justement que en fait la réforme du CESEDA va accroître la relation de dépendance du travailleur vis-à-vis de son patron, qui est déjà existante notamment dans le travail saisonnier. Et une autre remarque que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est concernant justement la carte capacité et talent, sur le fait que derrière l'instauration d'une telle carte, il y avait une politique de classe, très clairement, qui s'instaurait.
Vous avez de très bonnes lectures. ben oui, je suis évidemment d'accord avec ça, puisque ça fait partie de notre pensée collective. Ben c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, bien entendu. Hein, la pression, que ce soit la pression des travailleurs sans papier, la pression du travailleur qui va être jetable dès qu'on n'en aura plus besoin... Tout ça, ça fait des gens qui ne peuvent pas envisager même, qui savent qu'ils n'auront pas droit au chômage si ça s'arrête, qui ne peuvent pas envisager de se syndiquer utilement, puisqu'ils risquent d'être vidés n'importe quand. C'est clair que c'est des gens qui... Disons, si des gens sont jetables à la fin du contrat, ils n'auront pas non plus d'allocation chômage et de choses de ce type-là. Ils seront partis. L'allocation chômage, ça disparaît. Le patron aura peut-être à payer le voyage du retour. C'est quand même beaucoup, beaucoup moins cher que les indemnités de départ d'un travailleur normal. Donc, et bien entendu, tout ça, ça fait une pression pour que les gens qui, normalement, qui luttent pour le CDD se disent, ben, après tout, on ne va plus avoir de boulot si on ne prend pas un CNE-CPE. Bien sûr, c'est tout ça, c'est une pression. Et puis l'autre côté, bien sûr, c'est... Ben, je vous ai dit, ça, c'est une politique de classe. Effectivement, les riches, ils peuvent faire venir leurs enfants pour 3 ans, alors que les autres, leur groupement familial est si difficile qu'ils craquent et qu'ils font venir leurs enfants de manière illégale, et les enfants se font faucher à la frontière. Enfin, c'est impossible.
Et sachant d'ailleurs aussi que pour les travailleurs saisonniers, il y aurait une clause qui interdirait aux travailleurs de travailler plus de la moitié de l'année, étant donné que ce serait un travail saisonnier. Et donc là, je n'ai pas suivi en fait tous les ressorts de la loi, mais ça impliquerait en fait que pendant 6 mois, donc le travailleur serait couvert, enfin il aurait une couverture sociale, et pendant les 6 mois restants il aurait une interdiction de travailler, ce qui le mettrait par ailleurs dans une situation où il serait absolument pas couvert socialement, où il aurait une interdiction de couverture sociale quasiment.
Oui, mais c'est déjà le cas en fait du travailleur saisonnier actuel, hein. Le travailleur saisonnier des Bouches-du-Rhône qui fait des cueillettes actuellement, c'est seulement des travailleurs qui viennent du Maroc, de Tunisie ou de Pologne, avec lesquels il y a des accords là-dessus, et ils viennent pour des durées de 6 mois maximum, 8 mois éventuellement. Ce qui est un peu différent là, c'est que maintenant, on crée un travailleur saisonnier qui aura une carte de 3 ans, hein, mais effectivement avec droit au travail seulement pendant 6 mois, et en principe résidence dans son pays. Alors est-ce qu'on va à chaque fois vérifier qu'il rentre chez lui? Mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est simplement un travailleur qui normalement n'est pas en France pendant plus de 6 mois, donc s'il est normalement pas en France plus de 6 mois, il n'aura pas de couverture pendant les autres 6 mois. C'est une manière aussi de précariser encore plus.
Bonsoir. Ça va?
Oui, ça va.
Bon, je veux tes papiers, s'il vous plaît.
Quoi?
Je veux tes papiers, s'il vous plaît.
Pourquoi faire?
Quoi?
Pourquoi faire?
Je te demande tes papiers, s'il vous plaît.
Mais monsieur, vous me demandez mes papiers, pourquoi?
Tu es venu en France comme ça? On t'a pas dit qu'en France, il fallait des papiers?
Il y a beaucoup de Français en Afrique.
Tu es venu par un pays voisin, hein?
Quand je suis venu en France, on m'a pas dit tout ça.
Écoute, je vais voir tes papiers.
Pourquoi faire?
Pour vérifier, savoir si tu es en règle, c'est tout, c'est simple.
Moi, en règle?
Oui, en règle, comme n'importe quel citoyen. Je veux tes papiers, c'est tout. De quel pays tu viens?
Je viens de l'Afrique.
Quoi?
De l'Afrique.
Je te pose la question, tu viens de quel pays?
je suis africain et je viens de l'Afrique.
Et Paul, tu viens voir. Je le demande de quel pays il vient. Il me dit de l'Afrique. Il est fou, hein? Bon, t'as pas de papier, quoi?
Je suis un Africain.
De quel pays? Tu me dis l'Afrique. L'Afrique, c'est quoi? Il y a le Mali, le Sénégal, le Congo, la Guinée, le Maroc, etc., etc.
Mais moi, je suis un Africain.
Quoi? Tu te fous de moi? Brigadier!
Pour quoi faire?
Embarquer!
Non! 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 Non!
Papier! Mes papiers!
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, et c'était Mama Sissoko avec, c'était son album Soleil de minuit. On est toujours avec Marie Duflo, qui continue à dresser le noir tableau de la nouvelle loi Cézéda-Sarkozy qui devrait être votée sous peu. Donc manifestement, on doit bien se marrer tous les jours au Gisti. Juliette.
Donc là, on vient de faire un petit tour d'horizon de l'immigration choisie, selon Sarkozy, qui en réalité, comme il est toujours dit dans l'analyse, dans le rapport d'analyse du GISTI, en fait, renforce cette opinion selon laquelle les immigrés seraient responsables de tous les abus et les patrons seraient à protéger, alors que la situation, notamment dans le travail saisonnier, est plutôt l'inverse. Peut-être qu'on pourrait passer maintenant justement à ce qu'il qualifie d'immigration subie, qui concerne davantage la question du regroupement familial et du mariage.
Pas exclusivement, mais on peut parler déjà du mariage et du regroupement familial. Donc, parlons du mariage. Donc, il y a un droit au séjour qui existait, qui a toujours existé, qui était le conjoint de français. Le conjoint de français, donc, Pasqua avait fait un truc qui avait mis énormément de gens dans la rue, qui était de ne donner une carte de séjour que sous réserve que le conjoint soit en situation régulière au moment du mariage. Mais c'était pour avoir une carte de 10 ans. La nouvelle loi, elle fait mieux, puisque pour avoir une carte de 1 an pour le conjoint français, il faudra avoir ce qu'on appelle un visa de long séjour. C'est la même chose qu'une situation régulière, c'est-à-dire que le consul donne un visa en vue de l'obtention d'une carte de séjour. Quand on sait la facilité qu'ont des étrangers pour avoir même un visa de touriste, les étrangers à risque migratoire, comme on dit, les étrangers venus de pays pauvres. Pour avoir un visa de long séjour, c'est quasiment impossible. C'est demander au consul, en gros, d'accorder l'équivalent d'une carte de séjour sur les mêmes critères. Donc ça veut dire que le conjoint français, à qui on demandera... Déjà, on lui demandait d'être entré avec un visa de touriste. C'était déjà assassin. Mais maintenant, on va lui demander d'être entré en France avec un visa de long séjour, ce qui est carrément impossible. C'est la même situation que Pasqua. Et encore, Pasqua, c'était afin d'obtenir une carte de 10 ans. Maintenant, pour avoir une carte de 1 an, il faudra avoir ce visa de long séjour. Le parent d'enfant français, il y a eu d'abord un peu la même chose, mais enfin, bon, finalement, ce qui est la caricature, c'est un test qui se fait pour Mayotte et pour la Guyane, qui est une modification du code civil mettant en doute, après avoir mis en doute le mariage blanc à toutes les sauces, maintenant c'est la paternité de complaisance. Paternité de complaisance, on va commencer. L'officier d'état civil peut refuser l'inscription de la reconnaissance du père, essentiellement, puisque la mère, c'est quand même plus difficile d'en douter, et dénoncer la paternité de complaisance avec des procédures très très longues de recours possibles, exactement comme quand l'officier d'état civil dit « c'est un mariage blanc, je ne veux pas le célébrer hein. ». Et ça, donc, ça a été dans un des projets antérieurs. C'était pour Mayotte seulement. Après, c'est devenu pour tout le monde, pour toute la France. Puis finalement, ils ont reculé. Maintenant, c'est Mayotte et Guyane. Mais c'est clair que c'est un premier pas pour essayer d'aller plus loin. Hein. Après le mariage blanc, la paternité de complaisance, bon.
D'ailleurs, ça c'est intéressant, c'est l'officier d'état civil qui doit estimer s'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance est frauduleuse. Et oui. Quels seraient ces indices?
C'est complètement ridicule, parce que tout le monde sait, personne n'oserait faire un test ADN pour toutes les reconnaissances de paternité, ça serait une catastrophe. Tout le monde sait qu'il vaut beaucoup mieux une reconnaissance par un père qui accepte de reconnaître, même si ce n'est pas le père génétique, c'est complètement débile. C'est pas viable. Bon, on espère bien que le Conseil constitutionnel n'acceptera pas une chose aussi ignoble, mais aussi invraisemblable.
Qui pourrait conduire justement à ne plus reconnaître un enfant par crainte.
Bien entendu, c'est ça l'idée. Mais comme des gens renoncent à se marier par crainte d'être expulsés. Donc c'est une catastrophe. Le regroupement familial, c'est déjà pas très facile, hein, puisqu'il y a des conditions pour faire venir les enfants. Actuellement, il faut avoir un titre de séjour d'au moins un an, avoir un logement suffisamment grand, avoir un petit peu suffisamment de fric, au moins le SMIC. Maintenant, on ajoute d'autres conditions, des conditions de ressources un petit peu plus lourdes, hein, et surtout, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le critère d'intégration républicaine, sur lesquels pourront se prononcer le maire et le préfet. Critère donc parfaitement subjectif. On peut dire ce type est... Elle m'inspire pas confiance. Intégration républicaine, voilà, c'est fini. Précarisation, évidemment, énorme. Et après, pour le renouvellement, on pourra demander l'intégration républicaine de la famille. Si l'épouse est revenue, est arrivée, si elle n'a pas pu s'adapter bien, au bout d'un an, on pourra dire que, non, que la famille n'est pas assez intégrée et qu'on ne peut pas renouveler. Bien, ça c'est en gros le regroupement familial, donc encore plus difficile, et pourtant c'était déjà extrêmement difficile. Maintenant, l'autre aspect de l'immigration subie, c'est tous les autres. Il n'y a pas que des conjoints français, il n'y a pas que des familles de gens établis. Oui, enfin, ça ne fait rien, c'est un détail.
Donc, juste peut-être pour revenir sur, me semble-t-il, le pouvoir des maires qui devient de plus en plus prégnant dans l'évaluation du droit au séjour des étrangers. Déjà, il y avait ces affaires de logement, de surface habitable sur lesquelles ils pouvaient intervenir. Et on accentue un petit peu des formes de discrimination positive ou négative très locale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Tout à fait. C'est très embêtant parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de maires qui souhaitent pas qu'il y ait trop d'étrangers dans leur commune. Et donc, c'est bien, ils ont toujours milité pour avoir leur voix au chapitre dans cette affaire-là. Et ils interviennent un peu partout. Ils interviennent déjà à l'arrivée en France pour les attestations d'accueil. Maintenant, quand vous voulez inviter quelqu'un, un étranger, il faut faire une attestation d'accueil. Et là encore, le maire va aller voir dans le logement de la personne qui veut accueillir. Il peut se renseigner sur comment vit la personne et donner ou non l'attestation d'accueil sur la base d'une enquête faite par les services de la mairie du logement.
Et s'il n'y a pas assez de chambres par rapport au nombre d'enfants à venir, tout à fait refuser.
Absolument, absolument. Pour vous, il n'ira pas voir chez vous, mais si vous êtes africain et en France depuis peu de temps, il ira certainement vérifier l'état de votre logement. Et bien sûr, il peut, et c'est sur des critères très subjectifs. C'est la même chose maintenant pour le regroupement familial aussi, c'est les services de la mairie qui vont vérifier. Et tout ça, ça ajoute au subjectif, bien sûr. Et si maintenant, en plus de la surface et de la beauté de l'appartement, on donne un avis sur l'intégration républicaine, et bien évidemment, on est en plein subjectivisme.
Et justement, sur cet avis d'intégration républicaine, il y a la crainte justement que ça puisse donner lieu à des enquêtes de police, parce qu'on ne voit pas très bien comment ça se pourrait faire autrement, quoi. Que le maire, en fait, diligente des enquêtes pour déterminer...
Il suffit peut-être des enquêtes de services sociaux qui disent qu'il y a un gamin qui ne va pas à l'école suffisamment régulièrement, que le mec, je sais pas. Il n'y a pas encore énormément de pratiques de ça, mais c'est un truc subjectif. Pour le logement, en tout cas pour l'attestation d'accueil, c'est très très subjectif et ça dépend des endroits.
Non,
si vous voulez, on peut aussi parler des autres cartes de séjour pour l'immigration subie. C'est pas seulement les conjoints français, pas seulement le regroupement familial. La première, c'est la carte des sans-papiers. Les sans-papiers qu'on rencontre, que vous rencontrez tous, on leur dit gardez tout ce que vous avez comme papier, payez, faites des déclarations d'impôts de non-solvables, faites des papiers, ne vivez pas clandestinement, parce qu'il faut absolument pouvoir prouver qu'au bout de 10 ans, vous aurez une carte de séjour. Et ben voilà, il y a des gens qui ont leur dossier, qui nous l'apportent au GISTI, et on tremble à l'idée de leur dire ben, « c'est foutu, ça ne marche plus du tout, cette affaire-là saute avec la nouvelle loi ». C'était la seule manière de régulariser un sans-papier sans qu'il se marie avec une Française. On ne peut quand même pas obliger tout le monde à se marier avec une Française. Et là, là, cette affaire-là saute carrément. L'article est rayé.
Il y avait une sorte de prime à avoir réussi à subir 10 ans, pendant 10 ans, voilà. À avoir détourné tous les obstacles de... On finissait par à l'usure.
Ben on se disait que la personne, au bout de 10 ans, risquait quand même de devenir un peu revendicative aussi, qu'un jour ou l'autre, ça pouvait. Mais l'argument de Sarkozy, c'est justement, on ne va pas donner une prime à l'illégalité. Hein. mais c'est des gens qui, évidemment, ont travaillé pendant 10 ans, se sont fait exploiter pendant 10 ans, on les pousse à continuer. Puis il y avait une autre carte de séjour qui, parfois, pouvait... qui marchait par exemple pour les couples pacsés, qui marchait pour les accompagnants de malades, qui marchait parfois aussi pour des gens qui étaient suffisamment bien installés en France, qui avaient des enfants en France, qui avaient une vie stable en France. C'était une carte donc, qui s'appelait typiquement vie privée et familiale, qui relevait de la Convention européenne des droits de l'homme, qui avait un côté évidemment subjectif, mais qui avait quand même, qui existait... Enfin, il y avait un certain nombre de décrets, de circulaires qui faisaient qu'on savait à peu près comment ça marchait. Maintenant, pour l'obtenir, on rajoute aux critères de vie privée et familiale qui étaient un peu codés, du genre accompagnant de malade, eh bien, on rajoute l'intégration républicaine, toujours elle, plus des conditions de ressources, plus des conditions de logement, plus toujours le même éventail, et donc... un arsenal d'outils discrétionnaires qui est très, très peu contrôlable.
Laissez parler des petits papiers. À l'occasion, papier chiffon, restez un soir, papier buvard, vous consoler.
Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent papier maïs vous réchauffer.
Un peu d'amour, papier velours. Esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps.
Laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent.
Machine, papier, machine.
Machine, machine, papier, machine.
On passe le ré, papier doré.
Voilà, ça c'était un extrait du disque de soutien au GISTI qui a été fait il y a quelques années. On reconnaît tout un tas d'artistes fort intéressants, pas tous en prison, qui étaient venus faire un concert de soutien, qui avaient enregistré un album pour aider le GISTI à être le plus indépendant financièrement possible. Guillaume.
Oui, ben on avance dans l'émission, donc je vous pose des questions. La loi va passer là bientôt en débat. Elle va être adoptée très certainement. On ne connaît pas encore les amendements possibles. Quelles vont être les conséquences un peu par rapport à tout ce que vous venez de nous expliquer sur qu'est-ce qu'on peut attendre en fait comme conséquence de cette loi?
On va d'abord essayer qu'elle passe pas, mais enfin bon, essayons d'être très nombreux à faire qu'elle passe pas. Mais en attendant, si elle passe, eh bien ça veut dire évidemment que toute cette immigration subie, ça va faire des sans-papiers, parce que les gens vont pas partir. L'accompagnant de malade, il va pas laisser crever son fils malade, il va rester avec ou sans papier, il va rester. Donc ça va faire beaucoup plus de sans-papiers, beaucoup plus de travailleurs précaires, comme tous les sans-papiers, et donc beaucoup moins de droits pour les étrangers et moins de droits par conséquence, pour tout le monde.
Alors, on parlait justement comment s'opposer
à ce projet de loi. Logisti est très mobilisé sur cette question-là. Vous êtes donc, et vous n'êtes pas seul, vous êtes intégré dans un collectif d'associations qui se positionne contre l'immigration jetable. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce collectif? Je sais qu'il y a une pétition. Qu'est-ce qui se met en place pour essayer de résister? J'espère qu'on n'est pas voué à être 1500 ou 2000 comme samedi dernier pour s'opposer à ce projet de loi.
Non, tout à fait. Non, je pense que ce collectif s'est créé début janvier. Il y avait 8 organisations au début. Maintenant, il y en a 200. C'est quand même pas mal. Il y a des réunions hebdomadaires où les gens qui ne s'entendent pas toujours très bien, tous les collectifs de sans-papiers sont là. Toutes les associations, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, Logisti, etc., toutes les associations usuelles sont là, ACT UP. Et puis, pour le moment, le PC, les Verts, les jeunes socialistes, pas encore les vieux socialistes, on verra, déjà, les jeunes socialistes font leur boulot, quoi. Et puis plein d'associations, 200 associations, c'est quand même beaucoup, hein, qui vraiment ont décidé de travailler ensemble. Et justement, c'est pour ça que je vous ai dit au début, je vais intervenir en tant que Gisti, mais aussi en tant que collectif, parce qu'on veut travailler vraiment ensemble. On a fait chaque association a fait son analyse. La prochaine association sera une analyse du collectif, qui est une synthèse de réflexion de beaucoup de gens. Hein. Donc c'est ce qui va sortir bientôt. Donc ce collectif a un site internet qui est facile à retenir, c'est www.contre-immigration-jetable, tout lié et au singulier, donc contre-immigration-jetable, tout lié et au singulier, .org. Là, vous trouvez toutes les versions successives de la loi, et les prochaines sans doute qui viendront. Vous trouvez les analyses des diverses organisations, et d'ici 2-3 jours, vous trouverez l'analyse conjointe du collectif. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Si on arrivait au moins à avoir des mobilisations comme il y a eu contre Pasqua, on serait bien content. On en est encore très loin, hein, mais c'est déjà un élément d'avoir toutes ces associations qui bossent ensemble et qui ne se tirent pas dans les pieds pour aller à telle ou telle association, à telle ou telle manifestation. Il est prévu... Il y a aussi dans ce collectif beaucoup d'artistes, hein, et j'espère bien qu'on va pouvoir faire beaucoup de disques aussi. C'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont prêts à participer à des manifs, justement, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas les habitués des manifs habituels, train de savate, qui viennent pour protester contre l'immigration jetable. C'est prévu probablement le 18 mars, mais c'est encore sujet à autorisations diverses. Peut-être le 18 mars, une première activité festive autour de quelque chose qui n'est pas une fête, mais activité, disons, avec artistes et réflexions politiques sur la place de la République, si ça peut se faire. Sinon, ça sera ailleurs et dans ces périodes-là. Et vous serez prévenus.
On relaiera ça, évidemment, sur cette antenne.
Il y a une pétition sur ce site aussi, que tous les auditeurs, tout le monde est évidemment appelé à signer et à faire signer par tous ses amis, ses ennemis aussi, pourquoi pas. Et par toutes les associations, ça peut être signé par des individus, par des associations, par toutes les associations que vous aimez.
Et donc vous trouverez le lien sur le site des Oreilles Loin du Front. Je le dis beaucoup en avance, d'habitude on le dit à 29, là je le dis à 26, loldf.free.fr.
Ouais, dans la page des liens, je crois que tu l'as mis dans la page des liens, on peut retrouver cette pétition.
C'est parfait, mais elle est sur la première page de pas mal d'associations du collectif, dont le Gisti bien entendu, mais vous pouvez aussi aller chercher le site lui-même parce que vous aurez de la documentation.
Voilà, et puis on rappelle que pour joindre Logisti, c'est www.gisti.org, et là il y a moyen de se procurer tout un tas de renseignements, d'analyses, mais il y a aussi vos guides, des brochures qui paraissent très régulièrement et qui font le point sur soit sur des points précis du droit, sur la question des étrangers malades, sur la question de l'utilitarisme migratoire, puisque c'est une des dernières publications que vous avez faites. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous donner un petit peu les sous-titres de ce qui nous attend pour les mois et les années à venir avec l'accélération de ce qu'on pourrait dire l'accélération de la machine à créer des clandestins.
Mais on est toujours intéressé de parler de tout ça, de ce sur quoi on se bat.
On approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. Alors eux, ils ont mis leurs doigts sur des boutons. C'était les CNE de la radio associative avec Jérémy et Juliette. Eux, ils ont dit des mots dans les micros. C'était les CPE des médias alternatifs avec Juliette, de l'Est, Alexandrine et Pierre. Et puis eux, ils ont écrit des phrases avant de les lire sur l'antenne. C'est les détenteurs de cartes de séjour, compétences et talents de la G45. C'était donc Fred et Guillaume Youm. Et dire que pendant ce temps-là, il y en a qui sont contents quand il y a du caca dans les couches. C'est un message très personnel. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on recevra Sylvie Thénault. Sylvie Thénault, qui était déjà venue il y a quelques temps, nous parler de la justice, puisqu'elle avait étudié dans son livre Une drôle de justice, la justice pendant la guerre d'Algérie. Et là, elle a publié il y a quelques mois Histoire de la guerre d'indépendance algérienne, un ouvrage passionnant qui revient sur l'histoire de la guerre d'Algérie du côté français et du côté algérien. Et puis la semaine d'après, on recevra on crâne un peu parce qu'on a deux semaines d'avance dans nos invités, c'est pas toujours le cas. On recevra Daniel Ben Saïd qui nous parlera de plein de choses, et le prétexte de sa venue, c'est la publication de Fragments mécréants, Mythe identitaire et République imaginaire. On voit que le mec, il est philosophe quand même pour faire des titres comme ça, aux éditions Ligne. Et puis on vous rappelle le site des Oreilles Loin du Front, http://lolbf.free.fr. Vous retrouverez les chroniques et les dossiers de ces émissions, et d'ici moins de 3 mois, vous pourrez réécouter cette émission. Voilà, merci. On vous abandonne, mais il y aura des cas du Capricorne, j'avais oublié ça.